Chapitre 13. Le dragon et le gouverneur. Malta commençait à avoir froid. Le sol humide sous elle, davantage boue que terre, avait saturé ses vêtements. L'immobilité accentuait les douleurs qu'elle ressentait par tout le corps. Elle devait absolument agir, continuer ou rebrousser chemin. Les deux solutions lui paraissaient également pénibles. Et si elle restait là, à attendre que quelqu'un se décide à faire quelque chose? Peu à peu, son souffle s'apaisa et elle entendit augmenter la musique lointaine. Quand elle y prêtait attention, la mélodie se distinguait plus clairement. Elle la connaissait? N'avait-elle pas dansé sur cette musique autrefois? Elle s'entendit fredonner doucement. Elle ouvrit les yeux, releva la tête. Y avait-il de la lumière devant elle ou était-ce un effet de son imagination? De pâles clartés se déplaçaient quand elle bougeait les yeux. Elle reprit sa reptation vers la lumière et la musique. Avec une soudaineté qui la surprit, elle commença à descendre. En levant la tête, elle découvrit qu'il y avait de l'espace au-dessus d'elle à présent. Elle se mit à quatre pattes, puis glissa brutalement. Elle dévala la pente boueuse sur le ventre, comme une otarie. Elle poussa un cri, voulut se couvrir le visage. Cela lui rappelait trop la folle culbute de la voiture. Mais elle arriva en bas sans avoir rencontré d'obstacle. Sous ses mains tendues, une mince couche de boue, puis la pierre froide. Les dalles du couloir. Elle avait franchi la partie éboulée. Pourtant, elle hésitait à se mettre debout. Elle rampa à tâtons jusqu'au mur. Elle leva les mains avec précaution, s'accroupit, puis se redressa. Soudain, elle découvrit la bande de Jidzin. Elle l'effleura de ses doigts boueux et le corridor s'illumina. Elle serra les paupières puis rouvrit les yeux lentement. Elle scruta le couloir, émerveillée. Au fond, à l'entrée, les murs étaient dégradés, les frises effacées, rongées. Ici, la lumière n'émanait pas seulement de la bande, mais aussi de tourbillons décoratifs incrustés dans le mur. Des dalles d'un noir brillant miroitaient sur le sol. La musique était plus forte, ponctuée tout à coup par un rire de femme. Elle baissa les yeux sur ses vêtements trempés de boue. Elle ne s'était attendue à rien de pareil. Elle avait cru que la cité serait déserte. Si crottée comme elle l'était, elle tombait sur quelqu'un, que ferait-elle? Elle sourit stupidement. Elle pourrait toujours prétendre que sa blessure à la tête lui faisait perdre l'esprit. À bien considérer sa conduite de ce soir, qui sait si elle n'avait pas réellement perdu l'esprit? Ses jupes mouillées claquaient sur ses jambes tandis qu'elle avançait sur la pointe des pieds. Elle passa devant des portes qui, heureusement, étaient fermées, excepté deux ou trois révélant des pièces opulentes, jonchées d'épais tapis, décorées des peintures étonnantes. Elle n'avait jamais vu de meubles semblables. Des divans ornés de glands et de riches tentures, des fauteuils où elle aurait pu se blottir et dormir, des tables qui étaient de véritables piédestaux. Les richesses fabuleuses du désert des pluies, sans doute. Pourtant, on lui avait dit que personne n'habitait la cité. Elle haussa les épaules. Peut-être entendait-on par là que personne n'y mangeait ni dormait. Elle pressa le pas. À un moment, elle décida qu'elle ne reprendrait pas le chemin qu'elle avait emprunté à l'aller, quoi qu'il lui advienne. Elle ne pouvait se résoudre à retraverser ce tunnel humide et boueux. Elle trouverait une autre issue. La musique s'éteignit un instant, puis se remit à tourbillonner. C'était une nouvelle mélodie qui lui était tout aussi familière. Elle en fredonna quelques mesures pour s'en convaincre, puis un frisson subit lui glaça l'échine. Elle se rappelait où elle avait entendu cette musique. C'était dans le premier songe qu'elle avait partagé avec Rain. Dans ce rêve, elle se promenait avec lui dans une cité silencieuse, puis l'avait menée à un endroit empli de musique, de lumière, de conversation. C'était cette musique-là. Voilà d'où elle la connaissait. Pourtant, elle trouva curieux de se la rappeler si nettement. Le sol crissa sous ses pieds et s'écarta. Elle s'agrippa désespérément au mur. Il tremblait sous sa main. La secousse allait-elle durer? La cité allait-elle s'écrouler sur elle? Son cœur battait à se rompre, la tête lui tournait. Soudain, Le couloir grouilla de gens. De grandes femmes élégantes, à la peau dorée, à la chevelure invraisemblable, passèrent près d'elle en causant gaiement dans une langue qui lui était connue jadis. Elles ne lui jetaient pas seulement un regard. Elles portaient des jupes luisantes qui, bien qu'effleurant le sol, étaient fendues jusqu'à la taille et laissaient entrevoir impudiquement l'éclat fugitif de leurs jambes dorées. L'air était chargé de leur parfum suave. Elle vacilla, cligna les yeux, aveuglée. Elle avait perdu le mur. Elle poussa un petit cri, surprise par l'obscurité subite, le remugle, l'humidité et le silence. Elle perçut un bruit lointain de cailloux, un glissement. Elle s'avança vers le mur d'un pas mal assuré, s'y heurta et la lumière rejaillit. Le couloir était vide, dans les deux sens. Elle avait tout imaginé. Elle porta au front sa main libre et toucha sa blessure. Elle avait eu tort d'essayer. C'en était trop pour elle. Il valait mieux trouver une sortie et retourner à sa chambre, à son lit. Si elle rencontrait quelqu'un, elle n'aurait pas à faire semblant d'avoir perdu l'esprit. Elle craignait sérieusement à présent que ce soit en effet le cas. Elle se remit en route, rapidement et résolument, entraînant les doigts sur la bande. Elle n'hésitait plus au coin ni ne s'attardait à jeter un coup d'œil dans les pièces. Elle traversait en pressant le pas le labyrinthe de couloirs, s'écartant de ceux qui paraissaient les plus larges et les plus fréquentés. La musique s'intensifia à un endroit, mais elle la perdit en tournant à un coude. Elle parvint enfin à un grand passage bien éclairé. Un dessin bizarre qui évoquait des animaux ailés en plein vol décorait les murs. Le large corridor aboutissait à une haute porte voûtée de métal bosselé. Malta s'arrêta et l'examina. Elle connaissait l'emblème qui était sur la porte. Il correspondait à celui qui ornait la portière de la voiture des Rouprous. Un grand poulet avec une couronne en position de combat. Quoique le motif fût saugrenu, l'animal avait un air à la fois hautain et menaçant. Elle ne fut pas loin de l'admirer. Au-delà de la porte, lui parvint le brouhaha d'une réception. Des gens bavardaient et riaient. La musique était joyeuse, elle entendait claquer les pas vifs des danseurs. Elle baissa une nouvelle fois les yeux sur sa robe. Tant pis, il n'y avait rien à y faire. Elle voulait seulement sortir d'ici et retrouver sa chambre. Elle aurait dû être cuirassée contre l'humiliation depuis le temps. Elle posa une main sur son front comme si elle allait défaillir. De l'autre main, elle poussa le grand battant. Elle fut soudain plongée dans l'obscurité, trébucha en avant alors que le panneau cédait facilement sous sa poussée. Le froid et l'humidité montèrent du sol et l'enveloppèrent. Elle mit les pieds dans une flaque profonde d'eau froide.
« Au secours !»
cria-t-elle sottement. Mais la musique et les voix s'étaient tues. Il flottait dans la salle une odeur de marc roupie. Soit elle était aveugle, soit les ténèbres étaient absolues.
« Ohé ?»
appela-t-elle. Elle avança à petits pas, les mains tendues devant elle. Elle trouva brusquement des marches qui descendaient, manqua la première et dégringola. Les degrés paraissaient larges et bas. Elle n'atterrit pas très loin et poursuivit sa descente en rampant. Au bas des marches, elle continua à ramper sur une courte distance, puis elle se releva et progressa plus lentement encore en tâtonnant dans le noir.
« Ohé ?»
répéta-t-elle. Les murs répercutèrent l'écho de sa voix. La salle devait être immense. Soudain, elle heurta un obstacle rugueux, du bois.
« Salut, Malta Vestrit !»
lui dit le dragon.
« Ainsi nous nous rencontrons enfin. Je savais que tu viendrais à moi. »
« Ne parle pas comme cela de ton frère !»
fit Yanni d'un ton sec. Elle claqua son ouvrage d'aiguille sur la table à côté d'elle.
Bendir soupira. « Je ne fais que répéter. Ce sont les autres qui disent ça, pas moi. S'il est empoisonné un jour, ce ne sera pas par moi. »
Il risqua un sourire. Elle crispa les mains sur sa poitrine.
Ce n'est absolument pas drôle. Oh ça, pourquoi n'avons-nous pas fait débiter ce fût avant qu'il revienne?
Il pensait rester à Terrilleville plusieurs semaines, pas une nuit. Je croyais avoir le temps.
Ce fût est plus grand et plus dur que tous les autres, et quand les pigeons voyageurs nous ont apporté les nouvelles de Terrilleville, nous avions bien d'autres soucis en tête.
Je sais, je sais.
Sa mère écarta ses excuses d'un revers de main.
Où est-il maintenant?
Là où il est tous les soirs. Dans sa chambre, à boire tout seul, et à parler tout seul. Des inepties à propos de dragons et de Malta. Il parle même de se tuer.
Quoi? Elle le regarda les yeux écarquillés. Ses paroles détruisaient le refuge de paix vespérale qu'était son salon.
C'est ce que Jenny a entendu derrière la porte. C'est pour ça qu'elle a couru me prévenir. Il ne cesse de répéter que le dragon va le forcer à se tuer et que Malta va mourir aussi,
ajouta-t-il malgré lui.
Malta? Il en veut à Malta? Mais je croyais qu'ils s'étaient réconciliés aujourd'hui. J'ai entendu dire...
Yanni se troubla.
On a tous entendu dire, reprit Bendir. Rain était dans sa chambre, la tenait sur ses genoux et la caressait. Étant donné sa conduite ces derniers temps, cette frasque-là en est presque reposante.
Ils ont été durement éprouvés.
Il a cru qu'elle allait mourir et il se sentait responsable. Il est naturel qu'il s'accroche à elle maintenant.
L'excuse était faible et Yanni le savait. Elle se demandait si Kefria était au courant. Changerait-elle ses projets?
Pourquoi fallait-il que Rain se conduise si bizarrement en ce moment, quand il y avait tant d'autres crises à affronter?
Eh bien, j'aimerais mieux qu'il s'accroche à elle maintenant au lieu de tempêter et de délirer dans sa chambre,
fit remarquer Bendir froidement.
Yanni Rouprou se leva brusquement.
Ce n'est pas bon pour aucun de nous. Je ne peux le ramener à la raison ce soir s'il est ivre, mais on va lui prendre l'eau-de-vie et insister pour qu'il dorme. Demain, j'exigerai qu'il change de conduite. Tu devrais lui trouver un travail à faire.
Les yeux de Bendir s'allumèrent.
J'aimerais le renvoyer dans la cité. Révo a découvert un tumulus dans le marais. Je pense qu'il peut s'agir de l'étage supérieur d'un autre édifice. J'aimerais que Rain s'en charge.
Ce ne serait pas prudent, à mon avis.
Il ne devrait plus s'approcher de la cité.
Il n'est bon qu'à ça,
commença Bendir, puis il serra les lèvres devant le regard furieux de sa mère. Il se leva et sortit dans la nuit, Yanni sur ses talons. Ils étaient encore à deux passerelles de distance de la chambre de Rain quand elle distingua sa voix confuse. Bientôt, elle entendit chaque mot de son délire d'ivrogne. C'était pire que ce qu'elle craignait. Son cœur se serra. Il ne pouvait suivre le chemin de son père qui avait fini en soliloquant sans plus parler à personne.
« Je t'en prie, ça, mère universelle, ne sois pas si injuste !»
La voix de Rain s'enfla jusqu'au cri. Bendir se mit à courir. Yanni se précipita derrière lui. La porte de Rain s'ouvrit soudain à la volée. La clarté dorée d'une lampe inonda la nuit. Son fils bondit dans son champ de vision, puis s'arrêta et se cramponna à l'encadrement. Il était évident qu'il ne pouvait plus tenir debout.
« Malta !»
beugla-t-il dans la nuit.
« Non, Malta, non !»
Il sortit en titubant avec de grands gestes désordonnés pour trouver le garde-fou qu'il manqua. L'épaule de son frère le heurta en pleine poitrine. D'un bras vigoureux, Bendir le repoussa dans la chambre et le fit tomber. Rain semblait incapable d'opposer la moindre résistance. Il agita les bras mais s'allongea sur le dos en poussant de profonds gémissements, puis il ferma les yeux et s'immobilisa. Il avait perdu conscience. Yanni se hâta de refermer la porte derrière elle.
« Mettons-le sur son lit, »
dit-elle soulagée mais lasse. Alors, Rain roula la tête sur le côté. Il ouvrit les yeux et les larmes ruisselèrent sur ses joues.
« Non, »
gémit-il.
« Laissez-moi me lever. Il faut que je rejoigne Malta. Le dragon va la prendre, il faut que je la sauve. »
« Ne sois pas ridicule, »
dit Yanni d'un ton sec. Il est tard et tu n'es pas en état de voir qui que ce soit ni d'être vu. Bendir va t'aider à te coucher et tu n'iras pas plus loin que ton lit. »
Bendir se pencha et saisit son frère par le devant de sa chemise. Il le traîna à demi sur le plancher, deux marches jusqu'au lit sur lequel il le jeta sans ménagement. Puis il se redressa et se frotta les mains.
« C'est fait »
haleta-t-il.
« Récupère l'eau de vie et éteins la lanterne. Rain, reste ici et dors, plus de cris !»
Son ton ne souffrait aucune réplique.
« Malta !»
dit Rain d'une voix traînante.
« Tu es ivre !»
rétorqua Bendir.
« Pas si ivre que ça !»
Il essaya de s'asseoir, mais son frère le repoussa en arrière.
Rain serra les poings, puis se tourna soudain vers sa mère.
« Malta est avec le dragon. Elle y est allée pour moi. Il va la prendre !»«
Malta va prendre le dragon ?»
dit Yanni en fronçant les sourcils.
« Non !»
rugit-il exaspéré. Il essaya de se lever, mais Bendir le repoussa à nouveau, plus rudement cette fois.
Rain lança le poing en direction de son frère qui esquiva sans peine le coup en lui disant d'un ton féroce « N'essaie pas, je t'assomme !»«
Maman !»
Le gémissement résonna de façon ridicule dans la bouche d'un homme adulte.
« Malta est allé voir le dragon !»
Il eut une profonde respiration, puis déclara lentement et posément
« Le dragon l'a prise maintenant, à ma place !»
Il leva les mains et se tapota la tête.
« Le dragon est parti. Je ne le sens plus. Malta l'a forcé à me laisser tranquille. »«
C'est bien, Rain, »
dit Yanni qui tâchait de le réconforter.
« Le dragon est parti. Ils sont tous partis maintenant. Dors. Demain matin, tu me diras tout. Moi aussi, j'ai à te parler. »
Elle finit de ne pas remarquer le rictus écœuré de son aîné.
Rain respira à fond et soupira.
« Tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. Je suis si fatigué, je n'ai qu'une envie, dormir. Mais il faut que je la rejoigne, il faut que je reprenne le dragon et que Malta s'en aille. Elle va mourir et c'est ma faute. »
« Rain !»
Yanni s'assit au bord du lit. Elle tira une couverture et le borda.
« Tu es ivre, tu es fatigué, tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas de dragon, seulement une vieille bûche. Malta n'est pas en danger. Sa blessure était accidentelle, ce n'est pas vraiment ta faute. Elle reprend chaque jour des forces. Bientôt elle se lèvera et sera sur pied. Maintenant, dors. »
Il ne faut jamais essayer de raisonner avec un homme ivre,
fit Bendir comme s'il se parlait à lui-même.
Rain gémit. Mère!
Il inspira profondément comme s'il allait parler, mais il soupira.
Je suis si fatigué. Cela fait si longtemps que je n'ai pas dormi. Mais écoute, écoute.
Malta est allée dans la cité jusqu'à la salle du coq couronné. « Va la chercher, c'est tout, je t'en prie. S'il te plaît, fais-le. »«
Bien sûr, et toi, dors. Bendir et moi, on va s'en occuper. »
Elle lui tapota la main et repoussa les cheveux bouclés de son front grenu.
Bendir émit un bruit dégoûté. « Tu le traites comme un bébé. »
Il ramassa les bouteilles sur la table et se dirigea vers la porte. Une par une, il les lança dans le marais. Yanni fit mine de ne pas remarquer son geste d'humeur. Elle resta assise au chevet de Rain, dont les paupières s'alourdissaient puis se fermaient. Noyée dans les souvenirs.
Non, pas son fils. Ce n'était que divagation d'ivrogne. Il était toujours lui-même. Il la voyait, il voyait son frère. Il ne parlait pas à des fantômes. Il était amoureux d'une jeune fille bien réelle. Il ne s'était pas noyé. Il ne se noierait pas.
Bendir revint dans la chambre. Il prit la lanterne sur la table.
« Tu viens ?»
demanda-t-il à sa mère. Elle hocha la tête et suivit son fils aîné. Quand elle referma la porte, le souffle de Rain était profond et régulier.
« Et tu le laisseras tranquille pour toujours ?
précisa Malta bravement. Le dragon se mit à rire.
Une fois que je serai libre, ma petite, pourquoi m'intéresserai-je à vos brèves petites vies? Je m'envolerai, partirai en quête de mes semblables. Bien sûr que je le laisserai tranquille. Allez maintenant, je vais te montrer.
Malta se tenait dans la salle noire, ses mains et son front douloureux reposant sur le bloc de bois. Elle prit une inspiration.
Et tu iras sauver mon père?
Certainement, ronronna le dragon. Je t'ai déjà dit que je le ferais. Maintenant, libère-moi.
Mais comment savoir si tu tiendras parole?
S'écria Malta au supplice. Puis, sur un ton plus décidé, elle ajouta:
Il faut que tu me donnes quelque chose, une sorte de signe.
Je te donne ma parole.
Le dragon commençait à s'impatienter.
Cela ne me suffit pas.
Malta réfléchit. Il y avait quelque chose. Si seulement elle arrivait à se rappeler. Voilà, elle le tenait.
Dis-moi ton nom.
Non.
Le refus était catégorique.
Mais dès que je serai libre, je t'apporterai un trésor tel que tu n'en as même jamais rêvé. Des diamants gros comme des œufs de pigeon. Je volerai vers le sud et t'apporterai des fleurs qui ne fanent jamais, des fleurs d'arbres dont le parfum seul suffit à guérir ceux de ta race de toutes les maladies. Je volerai vers le nord et je te rapporterai de la glace plus dure que du métal qui ne fond jamais. Je t'apprendrai à en fabriquer des lames qui peuvent couper jusqu'à la pierre. Je volerai vers l'est et je te rapporterai...
Assez de boniment,
protesta Malta.
Pas de trésor. Je ne demande que deux choses. Que tu laisses Reine tranquille et que tu sauves mon père. Le navire s'appelle Vivacia. Tu dois te rappeler ça. Tu dois trouver le navire, tuer les pirates et le sauver.
Oui, oui. Seulement...
Non, jure sur ton nom. Dis que, sur ton nom, tu jures de sauver Kyle Havre et de laisser Reine Rouprous en paix. Dis-le, et je ferai ce que tu voudras.
L'explosion de colère du dragon lui fut comme une gifle sur tout le corps.
Tu oses poser des conditions? Jetez à moi maintenant, petit insecte. Refuse d'accéder à mes demandes, et je hanterai ton âme jusqu'à la fin de tes jours. Tu subiras ma loi. Je te dirai de t'arracher les ongles, et tu le feras. J'exigerai que tu étouffes tes bébés, et tu obéiras. Je ferai de toi un monstre que même les tiens...
Une petite secousse ébranla la salle, interrompant les menaces du dragon. Malta serra les lèvres pour s'empêcher de crier.
« Tu vois, tu fâches les dieux avec tes exigences. » Fais ce que je te dis ou ils vont t'ensevelir sous la colline.
Et toi aussi,
fit remarquer Malta impitoyable.
Peu m'importe tes menaces. Si tu étais capable de faire tout ça, tu aurais depuis longtemps forcé Reine à t'obéir. Dis ton nom ou je ne ferai rien pour toi, rien.
Le dragon garda le silence. Malta attendit. Elle était transie. Elle grelottait si fort que sa tête résonnait et que son dos lui faisait mal. Ses pieds étaient engourdis, peut-être dans une flaque, elle n'était plus sûre de rien. Elle était venue ici, elle avait trouvé le dragon, pourtant elle allait échouer. Elle ne pouvait sauver personne, ni son père, ni l'homme qui avait renoncé à sa cité pour elle. Elle n'était qu'une femme impuissante, sans le moindre pouvoir. Elle laissa retomber ses mains et se détourna du feu. Elle se mit à chercher son chemin à l'aveuglette à travers la salle, en espérant s'engager dans la bonne direction. La voix du dragon résonna soudain dans le silence.
« Tintaglia. Je m'appelle Tintaglia. »
« Et ?»
Malta s'arrêta net, retint son souffle, pleine d'espoir.
« Et si tu me délivres ?» « Je promets que je laisserai Reine Rouprous en paix, et que je sauverai ton père, Kyle Havre. »
Malta inspira profondément. Elle leva les bras et retraversa hardiment la salle. Elle reposa les mains sur le bois et inclina la tête. Elle renonça dans un soupir à toute résistance.
« Dis-moi comment te libérer. »
Le dragon expliqua vivement, avec impatience.
« Il y a une grande porte dans le mur sud. Les anciens ont créé des œuvres d'art ici, dans cette salle. Ils ont sculpté des statues vivantes de ma race dans la pierre de mémoire. Des vieillards les taillaient dans cette salle à l'abri du vent et des intempéries. Alors ils mouraient en elles et les sculptures prenaient brièvement leur vie. La porte s'ouvrait, la statue émergeait au soleil et s'envolait au-dessus de la cité. Elles vivaient un certain temps, puis leurs souvenirs et leur vie de simulacre s'éteignaient. Il y avait leur cimetière là-bas dans les montagnes. Les anciens considéraient que c'était de l'art. Nous trouvions amusant de nous voir reproduits dans la pierre. Aussi l'avons-nous toléré.
« Tout ceci n'a aucun sens pour moi !»
s'insurgea Malta. Le froid pénétrait ses jambes. Ses genoux lui faisaient mal. Elle était lasse de parler. Qu'elle fasse ce qu'il fallait et qu'on en finisse.
« Dans le mur, il y a des panneaux qui dissimulent les leviers et les manivelles servant à ouvrir la grande porte. Trouve-les et manœuvre-les. Quand le soleil se lèvera demain et effleurera mon berceau, je serai délivré. »
Malta fronça les sourcils.
« Si c'est tellement facile, pourquoi Rain ne l'a-t-il pas fait ?»«
Il voulait, mais il avait peur. Les hommes sont dans le meilleur des cas des êtres timorés. Ils ne pensent qu'à manger et à se reproduire. Mais toi et moi, jeune reine, nous savons qu'il n'y a pas que cela. Les femmes doivent se montrer impitoyables pour protéger leurs petits et perpétuer la race. Il faut prendre des risques. Les hommes vont trembler dans l'ombre en redoutant la mort. Nous savons que la seule chose à redouter est l'extinction de la race. »
Les mots résonnèrent étrangement dans l'âme de Malta.
« Presque vrai, »
murmura-t-elle pour elle-même.
Mais elle n'arrivait pas à démêler la part du vrai et du faux dans les paroles du dragon. « Où sont les panneaux ? »
demanda-t-elle d'une voix lasse.
« Cessons de discuter et agissons. »«
Je ne sais pas, »
avoua le dragon.
« Je n'étais pas dans cette salle. Ce que je sais, c'est par les vies des autres. Tu dois les découvrir. »«
Comment ?»«
Il faut apprendre de ceux qui savaient. Viens à moi et fais tomber tes défenses, Malta Vestrit. Laisse-moi t'ouvrir les souvenirs de la cité et tu sauras tout. »«
Les souvenirs de la cité ?»
C'était leur idée, d'engranger leurs souvenirs dans les structures de leur cité. Ils vous frôlent en passant, mais vous ne pouvez les évoquer à volonté. Moi, je peux t'aider à les trouver. Laisse-moi faire. »
Tout devenait clair. Elle comprit brusquement quelle devait être sa part du marché. Elle prit une profonde inspiration. Puis, elle se pencha sur le bois, y appuya les mains, les bras, la poitrine, la joue. Une autre respiration, comme si elle se préparait à plonger. Elle s'interdit d'avoir peur ou de résister. Elle déclara, la bouche sèche.
« Noie-moi dans les souvenirs. »
Le dragon ne se fit pas prier. La salle s'anima subitement. Malta Vestrit s'évanouit comme une apparition. Une centaine de vies fleurissent autour d'elle. Des gens de haute taille, aux yeux cuivrés et violets, à la peau de miel, remplissent la pièce. Ils dansent, parlent, boivent, tandis que les étoiles brillent à travers le dôme de l'édifice, d'une transparence invraisemblable. Puis, en un clin d'œil, c'est l'aube. La clarté matinale s'infiltre, brille sur les plantes exotiques en pot qui s'épanouissent tout autour de la salle. Dans un coin, une fontaine à plusieurs niveaux jaillit, des poissons sillonnent ses eaux. Il est midi, les portes sont ouvertes pour laisser pénétrer une brise rafraîchissante. Puis, c'est le soir, et les portes sont fermées, et les anciens se rassemblent à nouveau pour parler et rire et danser sur la musique. Un autre clin d'œil, et le soleil revient. Une porte s'ouvre et un immense bloc de pierre noire veiné d'argent est tiré dans la pièce sur des rouleaux. Les jours s'effeuillent comme une fleur de pommier. Un groupe de vieillards se déplace autour de la pierre avec des marteaux et des ciseaux. Un dragon émerge. Les vieillards s'appuient contre lui et disparaissent à l'intérieur. Les portes s'ouvrent. Le dragon frémit puis avance à grands pas, accompagné des vivats et des larmes de ses admirateurs. Il prend son élan, s'envole. Les gens se rassemblent pour boire et danser et parler. Un nouveau bloc de pierre est tiré à l'intérieur. Les jours et les nuits s'égrènent tels des perles blanches et noires détachées d'un collier. Malta a pris racine dans le temps, et les jours s'écoulent autour d'elle. Elle observe, elle attend, et bientôt elle n'en a plus conscience. Les souvenirs emplissent lentement la salle comme du miel épais. Elle les absorbe et comprend tout, bien au-delà des capacités de son esprit. Les souvenirs ont été engrangés ici, car les anciens ont cultivé ce plaisir, la dégustation de leurs souvenirs respectifs. « Mais pas comme cela !» gémit Malta. « Pas dans un flot qui n'épargne nul détail, qui n'atténue nulle émotion. C'est trop, beaucoup trop !» Elle n'est ni ancien, ni dragon. Elle n'est pas faite pour contenir autant. Elle les perd comme on perd du sang. Elle oublie autant qu'elle retient. Elle s'accroche aux détails essentiels qu'elle doit découvrir et conserver. Les panneaux, les leviers et les roues. C'est le seul souvenir important. Elle laisse échapper le reste. Elle s'étale dans la flaque glacée. Le froid la pénètre jusqu'à la moelle, mais les mois et les années tournent comme des roues de chariot autour d'elle, imprimant chaque seconde fugace dans sa mémoire en feu. Elle en sait suffisamment. Elle en apprend davantage encore. Les jours tournent également devant et derrière elle, le temps s'écoule dans les deux directions. Elle voit s'élever les murs, et elle voit les ouvriers s'échiner à transporter les berceaux des dragons. Ils les cordent, les tirent, les poussent sur des rouleaux, car dehors le ciel s'est assombri et la terre tremble et les cendres pleuvent aussi drues qu'une chute de neige noire. Soudain, tout s'arrête. D'un côté, on pose la première brique. De l'autre, les gens ont fui ou gisent, mourant. Elle sait tout et elle ne sait rien.
« Malta, lève-toi !»
Qui était-elle? Pourquoi aurait-elle plus d'importance qu'un autre? En fin de compte, n'étaient-ils pas tous interchangeables?
« Malta Vestrit, tu te souviens? Tu te souviens comment ouvrir la porte?
Bouge ton corps, redresse-toi. Un corps si petit, si disgracieux, qui a mené une vie si brève. Qu'elle est donc sotte? Cligne les yeux. La salle est obscure, mais il est si simple de se rappeler comme elle avait été jadis inondée de lumière. Le soleil brillait au-dessus, irisait les panneaux de cristal. Là, maintenant, au travail, les portes. Il y avait deux portes dans la salle. Elle était entrée par la porte nord, trop étroite pour que le dragon puisse la franchir. Le berceau avait été apporté par la porte sud. Elle se rappelait à peine qui elle était et pourquoi elle était ici, mais elle se rappelait l'ouverture de la porte. D'ordinaire, il fallait quatre hommes forts pour la manœuvrer. Elle devrait l'ouvrir seule. Elle alla droit au premier panneau près de la porte sud et découvrit le loquet. Ses ongles se rebroussèrent, mais le panneau refusa de bouger. Elle n'avait pas d'outils. Elle le martela de ses poings. Elle entendit un petit déclic à l'intérieur. Elle tira de nouveau sur le loquet. Cette fois, il s'ouvrit en résistant. Avec un craquement, il sortit de ses gonds rouillés et tomba par terre. Peu importait. Une nouvelle fois, le souvenir qu'elle gardait de cette salle et les perceptions tactiles qu'elle en avait ne concordaient pas. La manivelle bien huilée qui aurait dû se trouver là était recouverte de toiles d'araignée et piquée de rouille. Toujours est-il qu'elle s'empara du maneton et s'efforça de tourner. La manivelle était bloquée. Oh, le levier. Actionne d'abord le levier. Elle le découvrit à tâtons. La poignée de bois poli avait disparu. Elle saisit à deux mains le métal nu et tira. Il ne bougea pas. Elle prit appui de ses pieds contre le mur. Elle força vers le bas. Le levier finit par remuer légèrement, puis céda brusquement sous son poids. Elle tomba sur les dalles alors qu'un bruit terrible d'arrachement se faisait entendre. Elle resta un instant étourdie. Un gémissement fit trembler le panneau. Elle se remit péniblement debout. Maintenant, la manivelle. Non, non, cela ne marcherait pas. L'autre levier d'abord. La porte devait être bloquée des deux côtés avant que les manivelles puissent la soulever. Elle ne se souciait plus de ses ongles arrachés, de ses mains en sang. Elle ouvrit le second panneau d'une violente secousse et un flot de terre détrempée se déversa dans la salle. Il y avait une brèche dans le mur. Elle ne s'en préoccupa pas. En creusant, elle dégagea le levier, l'empoigna et le tira de toutes ses forces. Il se déplaça légèrement, puis s'immobilisa. Cette fois, elle escalada les volutes du mur et grimpa sur le levier. Elle sauta de tout son poids et le fit descendre d'un cran. Très haut, au-dessus de sa tête, elle entendit un gémissement. Elle rassembla ses forces et poussa avec ses pieds. Le levier céda, puis se rompit net. Elle tomba en déchirant ses jupes sur le métal ébréché. Elle heurta brutalement son genou sur les dalles et durant un moment, elle n'eut plus conscience que de sa douleur.
« Malta, lève-toi !»«
Je sais, je vais me lever !»
Sa voix résonna, grêle et bizarre à ses oreilles. Elle se remit sur pied et revint en boitant vers le panneau. Le maneton de la manivelle était fixé sur une roue à rayons métalliques de la taille d'une roue de charrette habillée de terre. Malta creusa pendant une éternité. La terre glacée, détrempée et abrasive s'insinuait sous ses ongles et lui irritait la peau.
« Mais essaie donc !»
Docilement, elle posa les mains sur le maneton de la roue. Sa mémoire lui souffla qu'il aurait fallu deux hommes sur cette manivelle et deux autres sur la seconde. Il les aurait fait tourner en même temps. Mais elle était seule ici. Elle pesa de tout son poids et poussa vers le bas. Par miracle, la roue se mit en mouvement. À peine. Tout en haut du mur, quelque chose bougea. Elle abandonna la manivelle et revint vers la deuxième. Celle-ci au moins n'était pas couverte de terre. Elle se mouvait sans à-coups, mais n'alla pas beaucoup plus loin que la première. Elle fit ainsi plusieurs allers et retours de l'une à l'autre. Elle entendit quelque chose se déplacer dans le mur. La porte elle-même bougea un peu. Elle appuya sur la manivelle et le battant frémit à nouveau. De singuliers chuchotements filtraient à travers le mur et la porte. « De vieilles chaînes actionnent la poulie », lui murmure sa mémoire. Les contrepoids commencèrent à descendre. C'était ainsi qu'elle avait conçu le mécanisme, tu te souviens? Souviens-toi. Rappelle-toi le plan de la machine. Rappelle-toi le plan du dôme. Soudain, elle vit d'un œil différent le mur tout entier, la porte et son mécanisme. Le souvenir qu'elle en avait contrastait trop fortement avec ce que lui disaient ses mains. Elle palpa la boue et la terre gorgée d'eau en fermant les yeux pour ébaucher le plan qui lui avait été familier jadis. Elle promena les mains sur le battant, en sentit les gibbosités, les crevasses. Elle fit subitement volte-face.
La structure va céder de ce côté si on fait bouger la porte. C'est un miracle qu'elle soit restée intacte tout ce temps.
Ça va céder. La terre va s'écrouler et la lumière brillera,
prédit le dragon.
Continue.
Si tu te trompes, tu seras enseveli ici et moi avec toi.
J'aime mieux cela que continuer de vivre ainsi. Tourne les manivelles, Malta. Tu as promis.
Telle est la puissance que détient le nom. Elle revint soudain à elle-même, Malta, la jeune femme aux vêtements crottés, dans les ténèbres. La jeune et fière architecte avait disparu, sans même laisser de traces, comme si le rêve s'évapore quand on cherche à le retenir. Elle saisit la manivelle et la tourna d'un cran. Ce devait être la dernière rotation. Elle passa d'une manivelle à l'autre, tirant et jurant. Le mécanisme vétuste s'était enrayé. Le mur marmottait pour lui-même avec inquiétude, mais la porte restait bloquée.
« Elle est coincée, je ne peux pas l'ouvrir, j'ai essayé, je suis désolée. »
Durant un long moment, le dragon garda le silence. Puis il ordonna
« Va chercher de l'aide, ton frère, je le vois, tu le domines facilement. Va le chercher et prends deux bâtons pour faire levier, vas-y, tout de suite !»
Il y avait de bonnes raisons de refuser d'obéir, mais Malta n'arrivait pas à se rappeler lesquelles. Elle se souvenait à peine de ce frère dont parlait le dragon. La porte, le moyen de l'ouvrir, c'étaient les seules choses qu'elle saisissait clairement. Les bâtons, c'était une bonne idée. Insérés dans les rayons de la roue, ils serviraient de levier pour forcer les manivelles. Elle marcha dans une lumière venue d'un autre temps. Elle se traîna d'un pas lourd, grimpa le large escalier et franchit la porte nord. Elle retrouva la bande de Jidzin et la suivit. Le couloir s'illuminait et la guidait. Un clignement de ses yeux là, et il bouillonnait de vie. Des nobles passaient près d'elle, majestueux, assistés de leurs pages dégingandées. Une couturière et ses deux jeunes apprentis sortaient à reculons d'une porte en saluant, les bras chargés de riches étoffes. Une nourrice qui portait un bébé joufflu et vagissant se précipita vers elle et, à travers elle, salua joyeusement un jeune homme en bonnet enrubanné, et il siffla en retour. C'était Malta le fantôme invisible ici, pas eux. La cité leur appartenait. Tout à coup, elle trébucha sur une pierre. Elle perdit contact avec le mur et fut une nouvelle fois plongée dans l'obscurité. C'était son époque, sa vie. Il faisait noir et humide, et c'était plein de corridors éboulés et de portes coincées. Cette chute de terre lui apprirent ses mains tâtonnantes, barrait complètement le chemin. Impossible de passer par là. Elle effleura le mur pour s'orienter et trouva instantanément un meilleur itinéraire qui conduisait à une sortie plus proche. Elle s'engagea dans cette direction et pressa le pas. Elle n'écoutait plus les protestations de son corps rompu. Elle vivait à présent dans mille moments différents. Pourquoi se concentrer sur celui où elle souffrait? Elle allongea le pas, ses jupes en lambeaux tantôt claquant, tantôt collant à ses jambes. Elle se retrouva plaquée au sol.
« Un tremblement de terre ? »
dit-elle d'une voix atone quand la secousse fut passée. Elle demeura un instant immobile sur la pierre, attendant la réplique qui succédait fréquemment à la première secousse. Rien ne se produisit. Il y avait des bruits, des remuements, des frottements. Aucun qui paraisse proche. Elle se remit prudemment sur pied. Elle effleura la bande de Jidzin. La lumière clignota, mais faiblement. Malta dut se tendre vers les souvenirs qu'elle gardait du corridor avant de continuer son chemin. Des cris aigus éclatèrent au loin. Elle n'y prêta pas attention, pas plus qu'elle ne prêtait attention au bavardage des couples qui flânaient et aux aboiements d'un petit chien qui passa près d'elle. Fantômes et souvenirs. Il fallait qu'elle ouvre une porte. Elle tourna dans un couloir latéral qui devait la mener à la sortie. Les cris se rapprochaient maintenant. Une voix de femme appelait.
« je vous en prie, la porte est bloquée, sortez-nous d'ici, sortez-nous, nous allons mourir !»
En passant les mains sur le battant, Malta sentit vibrer les coups dont la femme le martelait.
Plus par curiosité qu'en réponse à la supplique, elle y appuya l'épaule.
« Tirez !»
cria-t-elle alors qu'elle poussait de son côté. La porte coincée s'ouvrit brutalement. Une femme se rua à l'extérieur. Elle se heurta à Malta et elles tombèrent toutes deux à la renverse. Un homme, pâle, se tenait derrière elle. Une lumière jaune de lanterne bien réelle venant de la pièce l'éblouit. La femme se releva avec peine en trébuchant sur Malta.
« Debout !»
glapit-elle d'une voix aiguë.
« Faites-nous sortir d'ici, le mur s'est fissuré et la boue s'infiltre !»
Malta s'assit et aperçut au-delà de la femme une pièce bien aménagée. Le sol jonché de tapis était submergé par une vague de boue qui s'écoulait lentement d'une fissure dans le mur. Un peu d'eau s'échappa même en bouillonnant. Le débit augmenta, la boue étant diluée par l'eau qui rongeait la pierre sur son passage.
« Le mur va bientôt s'effondrer ? »
fit-elle observer avec conviction. Le jeune homme pâle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Vous avez sans doute raison. »
Il baissa le regard vers elle.
« Vos maîtres nous ont assuré que nous étions en sécurité, que personne ne pourrait me trouver. À quoi bon me cacher de mes assassins si c'est pour finir noyé dans la boue puante ?»
Malta cligna les yeux. Les chimères des anciens pâlissaient. Le gouverneur de Jamelia la regardait d'un air torve.
« Eh bien, ne restez pas comme ça par terre. Levez-vous et conduisez-nous à vos maîtres. Ils vont sentir passer mon courroux. »
La compagne Kiki, revenue dans la pièce, saisit vivement une lanterne.
« C'est une bonne à rien !»
déclara-t-elle au gouverneur.
« Suivez-moi, je crois que je connais le chemin. »
Malta, toujours par terre, les regarda s'éloigner.
« C'est très important, » se dit-elle hébétée.
Le gouverneur de Jamelia avait été emmené à Troisnous pour sa sécurité. Elle n'était pas au courant. On aurait dû lui en parler. N'avait-il pas confiance en elle ? Elle ferma les yeux pour essayer d'y réfléchir plus clairement. Elle songea à s'endormir. Le sol se cabra sous elle et lui claqua la joue. Au bout du couloir, Kiki et le gouverneur se mirent à hurler. Malta fut moins terrorisée par leurs cris perçants que par le grondement sourd provenant de la pièce qu'ils venaient de quitter. Elle se remit debout à grand-peine alors que le sol tremblait toujours. Elle tira la porte qui résista en crissant. Que peut une porte contre une colline qui s'écroule ? Elle se prit la tête dans les mains. « Ressaisis-toi ! » Elle choisit un moment et le ranima autour d'elle. Le chaos l'effleura en tourbillonnant. Cela pouvait les sauver. Elle fit demi-tour et partit en courant. Devant elle, elle aperçut la lumière sautillante de la lanterne que portait la compagne. Elle les rattrapa.
« Vous vous trompez de chemin ? »
déclara-t-elle laconique.
« Venez avec moi !»
Elle arracha la lanterne des mains de Kiki.
« Par là !»
commanda-t-elle. Ils la suivirent. Autour d'eux, des fantômes poussaient des cris grêles. Malta suivait la fuite des anciens. S'ils avaient réchappé du dernier cataclysme, peut-être en réchapperait-elle aussi ?